Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal Élise d'Argent. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des lycéens confinés pendant plus de 3 heures hier après une énième fausse alerte à la bombe. Certains ont filmé la scène et l'important dispositif de sécurité déployé. Le récit dès le début de ce journal. Faire travailler les fonctionnaires 35 heures par semaine. Voilà l'une des pistes envisagées par le gouvernement pour trouver de nouvelles économies. Et puis les grands crus anglais pourraient-ils remplacer notre bon vieux vin de Bordeaux d'ici quelques années? Oui, et c'est une conséquence directe du changement climatique.
Grosse frayeur hier dans un lycée de Castelnaudary dans l'Aude.
Tout est parti d'un appel téléphonique intercepté par un commissariat de région parisienne. Il est question d'une bombe placée dans l'établissement, une alerte prise très au sérieux. Rapidement, les forces de l'ordre interviennent. Une partie des 1400 lycéens doit se barricader le temps des vérifications. Finalement, plus de peur que de mal, mais des esprits encore très marqués. L'un des élèves a accepté de raconter cette scène surréaliste au micro RMC de Romain Poiseau.
À 15h30, en pleine récréation, l'alarme du lycée retentit. Robin, 16 ans, et ses amis pensent tout de suite à un exercice.
On est tous allés se réfugier à la vie scolaire et on s'est tous cachés sous les tables. Après, il y en a d'autres qui étaient dans des pièces fermées, mais on était tous au sol.
Signe de confinement.
Ça a duré 3 heures. On a vite compris que c'était pas un exercice, quoi.
3 heures passées sous la table, dans le noir, et des élèves qui paniquent autour de lui.
Arrêtez. C'est pas un exercice.
Une fille qui était en pleurs, donc la panique, quoi. Mais bon, c'est quand même impressionnant.
Impressionnant, surtout quand les gendarmes mettent en joue les élèves au moment de l'évacuation.
Vous allez lever les mains.
La menace, l'alerte à la bombe, venue d'un appel anonyme, a été prise très au sérieux, explique Pierre Barbeau, conseiller municipal en charge de la sécurité à Castelnaudary.
On parlait de possibilité de quelqu'un qui aurait voulu entrer dans le lycée, peut-être armé. Nous n'avons rien trouvé.
Fausse alerte peut-être, mais qui choque encore la maman de Robin, Virginie.
Ça fait peur parce que nous ne sommes pas en sécurité dans les lycées, mais ça peut être partout, hein, même si c'est un canular.
Un canular peut-être, mais qui a angoissé pendant plusieurs heures des centaines d'élèves et leurs parents.
Les 3 gardes à vue dans l'affaire de la disparition de la jeune Lina ont été levés ce matin. On y revient dans le journal de 8 heures. Un potentiel violeur en série court toujours dans les rues de Grenoble, activement recherché par la police depuis plusieurs semaines, surnommé l'homme à la trottinette. Il est soupçonné d'avoir agressé plusieurs jeunes femmes. Sa description est largement partagée sur les réseaux sociaux et hier, le procureur de Grenoble a détaillé le mode opératoire de ce prédateur, Julie Brault.
Oui, dans la rue ou dans les transports en commun, c'est sur sa trottinette qu'il détecte et suit ses victimes. Au total, ce prédateur aurait commis 3 viols, 2 agressions sexuelles et 4 faits de violence sur des jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Elles décrivent toutes un homme âgé de 20 ans, teint pâle, yeux marrons et cheveux roux. C'est vêtu de noir qui les aurait suivies avant de les agresser. Des agressions qui ont lieu en plein centre-ville de Grenoble, mais aussi dans sa banlieue, toujours pendant la nuit ou au petit matin. Si la dernière agression en date remonte à une dizaine de jours, la série d'attaques, elle, aurait commencé depuis le mois de janvier. De nombreux policiers sont donc désormais mobilisés pour traquer ce prédateur à trottinette. Son itinéraire et son mode opératoire sont notamment passés au crible pour tenter de l'identifier.
7h33 sur RMC, un séminaire aux allures de Conseil des ministres ce matin à Matignon pour tenter de trouver de nouvelles économies après le dérapage inédit du déficit public de la France. Il y a 20 milliards d'euros à trouver dans le viseur du gouvernement, notamment l'assurance chômage, mais aussi les fonctionnaires. Le gouvernement songe à les faire travailler 35 heures par semaine, car la loi votée en 2019 n'est pas complètement appliquée. Certaines communes accordent des congés supplémentaires non justifiés par la Cour des comptes, qui chiffre à 1 milliard d'euros la suppression de ces extras, Nicolas Repère.
À Colmar, dans le Haut-Rhin, ou à Ajaccio, en Corse, les agents municipaux bénéficient de jours de congés supplémentaires. 2 en Alsace contre 1 en Corse. C'est notamment pour remercier l'engagement des fonctionnaires, disent les élus. Il est pourtant indispensable d'appliquer véritablement cette loi sur le temps de travail, plaide le député Renaissance Antoine Armand.
Il faut mieux faire appliquer certaines lois, notamment sur le temps de travail, mais pas dans une optique idéologique. Pas en disant ceci, on se l'interdit. Cela, c'est inacceptable. Mais en regardant ce qui est bon pour le pays. Et ce qui est bon pour le pays, c'est retrouver de l'équilibre financier.
Les collectivités territoriales ne doivent pas devenir des boucs émissaires, dénonce le maire communiste de Bonneuil-sur-Marne, Denis Ostorum, qui refuse d'appliquer la loi sur les 35 heures.
Ce sont des fonctionnaires qui travaillent dur, qui travaillent dans des métiers pénibles pour la plupart d'entre eux. Et leur dire aujourd'hui que non seulement ils seront mal payés, mais en plus on va continuer à leur enlever des conquêtes sociales qui ont fait en sorte qu'ils aient plus de congés, je trouve ça injuste.
La mise en œuvre de cette loi permettrait de faire baisser la masse salariale des collectivités de 3%, a calculé la Cour des comptes, une économie que contestent les maires récalcitrants.
À la troisième place sur le podium des catastrophes climatiques, l'année 2023, avec des sinistres qui ont coûté au total 6,5 milliards d'euros aux assureurs. Le changement climatique qui chamboule aussi la géographie du vin, c'est ce que nous apprend une étude publiée hier. D'après les chercheurs, 90% des régions viticoles du sud de l'Europe et de la Californie risquent de perdre leur aptitude à produire du vin de qualité. Mais il y aura aussi des gagnants, Mathis Caron.
Si le réchauffement climatique ne se limite pas à 2 ou 3 degrés d'ici la fin du siècle, il faudra sans doute dire adieu à certains vins italiens ou grecs, par exemple. En Espagne ou même dans le sud-est de la France, les vignerons déploient déjà d'importants systèmes d'irrigation pour entretenir leurs vignes. Une solution intenable à long terme pour Cornelis van Leeuwen, professeur de viticulture à l'école Bordeaux Sciences Agro.
Paradoxalement, une vigne irriguée est une vigne qui est plus vulnérable au manque d'eau. Et sur une vigne irriguée, si jamais on coupe l'eau, il y a des essais catastrophique sur la vigne, alors qu'une vigne qui est cultivée sans irrigation est finalement beaucoup plus résiliente au manque d'eau.
À l'inverse, des opportunités vont voir le jour pour produire du vin de grande qualité dans le nord de l'Europe.
Il y a une viticulture très prospère qui est en train de se développer en Angleterre. Aux Pays-Bas, on commence à planter la vigne. Et j'ai récemment même goûté un vin polonais qui était pas mal du tout. Les opportunités vont bien sûr apparaître dans le nord de la France et aussi en Bretagne et en Normandie.
Les vignobles français devraient être relativement épargnés par le réchauffement climatique. Mais pour le chercheur, ils vont parfois devoir recourir à de nouveaux cépages plus résistants à la sécheresse.
7h36 en football, la France a corrigé le tir hier soir en battant le Chili 3-2 après le revers infligé par l'Allemagne samedi dernier. C'était le dernier match amical des Bleus avant l'Euro 2024 et il va falloir faire beaucoup plus pour être performant en juin, prévient Didier Deschamps. Et on connaît d'ailleurs le troisième adversaire de l'équipe de France en phase de groupe à l'Euro. Après l'Autriche et les Pays-Bas, ce sera la Pologne qui s'est qualifiée hier soir au tir au but face au Pays de Galles.
Et puisqu'on est dans le foot, je voudrais que Julie puisse rentrer dans ce journal. Bonjour Julie.
Bonjour.
Julie, vous nous avez appelé au 32-16 parce que vous étiez au stade hier soir, au stade Vélodrome, et vous avez entendu les sifflets. Vous vouliez nous raconter?
Tout à fait. Alors du coup, j'étais au stade Vélodrome au virage nord.
Ouais.
Donc j'avais à ma droite les Chiliens. Donc lors de la minute de silence, c'est eux qui ont chanté.
Ouais.
Donc les Marseillais, ils ont un peu rétorqué, mais tant plus, mais à la fin de la minute de silence, en effet, les Marseillais, enfin, les supporters français ont sifflé les Chiliens le fait d'avoir chanté pendant la minute de silence.
Oui, parce que vous m'avez entendu tout à l'heure, effectivement, dire oui. Que moi, c'est ce moment-là qui m'a le plus choqué, encore plus oui. Que les sifflets à Mbappé qui sont, j'allais dire, de bonne guerre. Mais c'est vrai que pendant la minute de silence, à la mémoire des victimes de l'attaque terroriste de Moscou, c'était étonnant d'entendre, en effet, que la minute n'était pas respectée. Vous pensez qu'ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait, les Chiliens, si on essaye d'être de bonne foi?
Honnêtement, je sais pas, quand on voit les joueurs se mettre en ligne face à face sur un terrain, on sait très bien oui. Pourquoi c'est. Je sais pas, parce qu'on avait des Chiliens dans le virage nord qui étaient sur le bas du virage nord, qui eux ont respecté du coup, et c'était ceux qui étaient dans leur zone qui ont chanté du coup.
Et ensuite les sifflets, Julie, à Mbappé, bah,
vous avez sifflé,
Julie? Vous avez sifflé, vous?
Non.
Ou pas?
Ah non, moi j'ai non. Alors moi je suis venue voir un joueur français et pas un joueur parisien. Par contre, ce week-end j'espère que je serai au stade.
Voilà,
et je le sifflerai.
Exactement.
Et là pour le coup, vous le sifflerez. C'était voilà. Bien le match, vous étiez contente, Julie?
C'était pas un grand match non plus, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'aller voir la France et au stade Vélodrome encore plus, donc voilà.
Évidemment. Merci d'avoir partagé avec nous. Belle journée à vous, Julie. Et puis, il y a le Quintet aussi.
Hein, oui, le
Quintet. C'est donc à 13h55 sur l'hippodrome, tiens, de Marseille Borély.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Hibiscus Man. L'Outsider, c'est le numéro 14, Floréal. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal des 10 d'un jour.